Bonjour Victoria, bon retour de long week-end et bon début de semaine à l'antenne du 107.9 FM. C'est Alexis Gagnon en votre compagnie pour cette nouvelle édition de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info à l'antenne de CILS. Vos revues de presse internationales, nationales, francophonie et provinciales pour les 23 et 24 mai vont débuter dans quelques instants. Bonne émission à tous. Et je souligne dans cette introduction de l'édition des 23 et 24 mai que nous parlerons en fin d'émission avec Teal Phelps-Bondaroff à propos de la politique britanno-colombienne et à propos des élections qui viennent tout juste d'avoir lieu il y a un peu plus de 2 semaines. Teal va répondre à nos questions sur ce fameux résultat mitigé des élections et on va faire un peu de prospective, essayer de se projeter en avant. C'est une interview qui a été réalisée vendredi, donc il y a quelques jours, mais qui demeure d'actualité. Donc ce sera en fin d'émission. Restez à l'écoute. Vous écoutez l'émission Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon. Voici votre revue de presse internationale pour les 23 et 24 mai. On débute bien sûr avec l'attentat terroriste perpétré à Manchester en Grande-Bretagne. Je vous lis quelques lignes d'un article qui est apparu dans Mediapart. Manchester visé par un attentat suicide, c'est par la rédaction du journal. 22 personnes ont été tuées et 59 autres blessées lundi soir à Manchester à l'issue d'un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. Selon la police, le terroriste a actionné un explosif improvisé. L'État islamique a revendiqué cet attentat. 22 personnes ont été tués et 59 autres blessés lundi soir à Manchester dans ce que la police britannique considérait mardi matin comme un attentat suicide. Selon la première ministre Theresa May, qui s'est exprimée en fin de matinée mardi, la police pense avoir identifié le terroriste auteur de la pire attaque que Manchester ait connue. L'ancienne ministre de l'Intérieur, accompagnée de sa successeur Amber Rudd, s'est rendue en début d'après-midi au quartier général de la police à Manchester. Donc, c'est dans tous les médias, bien sûr, vous trouverez les détails sur le web. On a appris tôt mardi que le terroriste était un jeune homme de nationalité britannique. Donc, terrible attentat en Grande-Bretagne. On va continuer de suivre ça cette semaine, évidemment. Voyage de Donald Trump au Moyen-Orient, un article remarqué pour vous dans le journal Le Monde. L'industrie militaire américaine comblée par le voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite. La visite du président américain dans le royaume s'est soldée par une moisson de contrats, notamment militaires, écrit le journaliste Benjamin Barthes dans le journal Le Monde. Benjamin Barthes est le correspondant du Monde à Beyrouth. Lors de la visite de Donald Trump à Riyad les 21 et 21 mai, les États-Unis et l'Arabie Saoudite ont annoncé des montants astronomiques d'investissement réciproques et de contrats commerciaux qui devraient voir le jour au cours de la prochaine décennie. Le ministre saoudien des Affaires étrangères a parlé de transactions immédiates ou à venir d'un montant de 380 milliards de dollars, dont 110 milliards de dollars en contrats militaires que le porte-parole de la Maison-Blanche, Sean Spicer, a présenté comme l'accord d'armement le plus important de l'histoire des États-Unis. Cet ensemble, écrit le journal Le Monde, représente la contrepartie sonnante et trébuchante du réalignement stratégique des États-Unis sur les priorités de l'Arabie Saoudite, à commencer par sa politique d'endiguement de l'Iran. Il a été négocié en amont par Jared Kushner, le gendre et proche conseiller du président américain, qui a facilité les échanges entre les groupes d'armement américains et les autorités de Riyad. Son équivalent côté saoudien a été Ahmed Al-Khatib, l'homme de confiance du vice-prince héritier et ministre de la Défense Mohamed Ben Salman, qui vient d'être nommé à la tête du Saudi Arabia Military Industries, une entreprise nouvellement créée en Arabie Saoudite. Et certains, bien sûr, feront le lien entre ces contrats de plusieurs dizaines de milliards de dollars et les événements qu'ont connus Manchester dans les dernières heures. On continue de parler de cette visite de Donald Trump au Moyen-Orient, cette fois dans les colonnes du journal Libération. À Bethléem et Jérusalem, Trump affiche un soutien sans nuance à Israël. Le président américain a brièvement rencontré le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, sans pour autant lancer d'initiatives concrètes. En revanche, son discours devant les députés israéliens a enthousiasmé la Knesset, le Parlement israélien, y compris dans les rangs de l'extrême droite israélienne. Cet article du journal Libération indique que Donald Trump est arrivé les mains vides chez les Palestiniens. Il a certes encouragé le leader palestinien et son grand ami Benjamin Netanyahou à se rencontrer, mais il n'a pas présenté de projet concret. Donald Trump n'a pas annoncé d'initiative susceptible de favoriser le processus de paix au Moyen-Orient et en Israël en particulier. En tout et partout, le chef de l'exécutif américain sera resté 1h15 seulement dans les territoires palestiniens, indique cet article de Libération. Toujours dans les colonnes du journal Le Monde, Poutine rencontrera Macron le 29 mai à Versailles. Malgré les divergences, écrit le journal Le Monde, le président russe avait dû renoncer à venir en France en octobre dernier en raison des contentieux portant sur l'Ukraine et la Syrie. C'est un symbole qui ne peut que réjouir Vladimir Poutine, écrit le journal Le Monde. Le président russe sera en France le jour de l'inauguration le 29 mai de l'exposition sur Pierre le Grand au Grand Trianon à Versailles. L'invitation lui a été faite par Emmanuel Macron lors de leur entretien téléphonique du jeudi 18 mai, à l'occasion duquel les deux chefs d'État, malgré les divergences de position sur différents sujets, avaient rappelé la relation ancienne et particulière entre les deux pays. L'exposition marque le 300e anniversaire de l'ouverture de l'ambassade de la Russie à Paris par le tsar Pierre le Grand, qui avait voulu ouvrir son pays à l'Europe. On ne peut rêver meilleure occasion de relancer des relations mises à mal ces dernières années par l'annexion de la Crimée, la déstabilisation de l'Est de l'Ukraine et l'engagement militaire russe aux côtés des forces du président syrien Bachar al-Assad. Et le journal Le Monde rappelle qu'en octobre 2016, Vladimir Poutine avait annulé sa visite, durant laquelle il était notamment prévu l'inauguration d'un centre culturel et spirituel orthodoxe russe, après que François Hollande lui ait fait comprendre que cette visite se réduirait à une simple visite de travail centrée sur la Syrie. François Hollande avait alors voulu marquer le coup après un nouveau veto russe au Conseil de sécurité des Nations Unies et la poursuite des bombardements des quartiers rebelles de l'Est d'Alep, écrit le journal Le Monde. Pourtant, les autorités françaises, contrairement à une idée reçue, n'ont cessé ces dernières années de parler à la Russie, y compris au plus haut niveau, et ce malgré un contexte stratégique difficile. Donc voilà le point de vue du journaliste Marc Semeau dans les pages du journal Le Monde. Poutine rencontrera Emmanuel Macron le 29 mai à Versailles, malgré les divergences. Virus WannaCry, un topo dans le journal Mediapart. Le virus WannaCry révèle les lacunes de la cybersécurité mondiale. Une dizaine de jours après l'apparition du logiciel rançon, de nombreuses responsabilités peuvent être pointées. Celle de la NSA, qui a directement inspiré le virus, celle des États qui laissent se développer un véritable marché des failles informatiques, et celle, enfin, des entreprises qui avaient été prévenues de cette attaque. Il a fallu tout juste une semaine pour qu'un groupe de chercheurs élabore une solution et permette, en permettant de mettre en échec le virus WannaCry qui, depuis le vendredi 12 mai et dans 150 pays, a infecté plus de 300 000 ordinateurs dont les données ont été prises en otage. Cet outil qui permet de déchiffrer son PC sans avoir à payer la rançon demandée par les cybercriminels a été baptisé WannaKiwi et a été développé par trois Français, écrit fièrement le journal Mediapart dans cet article. Donc vous trouverez cet article dans le portail Mediapart. Le virus WannaCry révèle les lacunes de la cybersécurité mondiale. Journal Libération à propos de la Chine. En Chine, pas de pitié pour les informateurs des États-Unis. C'est par Raphaël Balenieri, correspondant de Libération à Pékin. Selon une enquête du New York Times, la Chine aurait exécuté entre la fin 2010 et la fin 2012 au moins une douzaine de sources chinoises basées dans le pays et travaillant en sous-main pour la CIA, l'agence de renseignement américain. Ils étaient 12, peut-être davantage, écrit le journaliste de Libération, des informateurs secrets que Washington avait mis des années à recruter pour être au courant des moindres faits et gestes du gouvernement chinois, l'un des régimes les plus opaques de la planète. La Chine aurait exécuté entre la fin 2010 et la fin 2012 au moins une douzaine de sources de la CIA. L'une d'entre elles aurait été froidement abattue d'une balle dans la dans la cour carrée d'un bâtiment officiel non identifié, une mise en scène glaciale digne d'un James Bond. Selon le journal américain, en plus de la douzaine d'agents liquidés, 6 à 8 autres informateurs auraient par ailleurs été emprisonnés au cours de cette vaste opération de contre-espionnage menée par la Chine pendant ces 2 années tumultueuses qui ont précédé l'arrivée au pouvoir du président chinois Xi Jinping. L'article du New York Times, écrit par plusieurs journalistes à Washington, s'appuie sur les témoignages anonymes de 10 fonctionnaires américains qui ont quitté le gouvernement ou sont encore en poste. Selon ces derniers, il s'agirait de l'une des pires brèches dans le travail du renseignement américain au cours des dernières décennies. Politique intérieure américaine à présent dans le fil de l'agence France-Presse. Et ça paraît dans le Journal de Montréal et plusieurs autres médias, un État américain jugé coupable de diluer le vote des Noirs. La Cour suprême à Washington a jugé lundi que les législateurs républicains de l'État de Caroline du Nord s'étaient rendus coupables de découpages électoraux illégaux destinés à affaiblir le vote des Noirs. À la majorité de 5 magistrats contre 3, la plus haute juridiction américaine a donné raison à des militants associatifs qui dénonçaient des manœuvres ciblant à dessein les électeurs issus des minorités afin de renier leur pouvoir politique. Sauf raison impérieuse, un État ne peut utiliser la race comme facteur déterminant pour tracer des circonscriptions électorales, a souligné la juge progressiste Elena Kagan en lisant l'arrêt appelé à influencer de futurs scrutins aux États-Unis. La Caroline du Nord fait partie des swing states américains, donc ces États pivots, explique l'AFP, qui peuvent basculer du côté républicain ou démocrate. Chaque voix peut faire la différence, y compris au niveau local. Les Afro-Américains sont censés voter très majoritairement pour les démocrates. Les Blancs penchent, eux, davantage vers le Parti républicain. La carte électorale de la Caroline du Nord a été refaite en 2011, rappelle cet article, quelques mois après que l'ex-président démocrate Barack Obama, cible des conservateurs du Tea Party, donc le Tea Party, c'est une aile très à droite du Parti républicain, donc quelques mois après que l'ex-président Obama eut perdu sa majorité à la Chambre des représentants. Vous trouverez cet article dans le fil de l'AFP, un État américain jugé coupable de diluer le vote des Noirs. On revient dans les colonnes du journal Mediapart. Les Européens continuent de mettre la Grèce au supplice. C'est par la journaliste Martine Orange. Une nouvelle fois, la Grèce repart les mains vides de Bruxelles. Les dirigeants européens ont décidé de jouer encore la montre dans l'espoir que l'Allemagne et le FMI trouvent un terrain d'entente sur la restructuration de la dette de la Grèce alors que le pays continue de s'effondrer. Une nouvelle fois, poursuit cet article, la Grèce repart les mains vides de Bruxelles. Au terme d'une réunion de 8 heures, les participants de l'Eurogroupe se sont séparés dans la nuit du 22 au 23 mai en constatant leur désaccord, avec comme seule promesse de se revoir le 15 juin. Athènes reste donc suspendue au bon vouloir de ses créanciers, écrit le journal Mediapart. Le gouvernement grec attend toujours le déblocage d'une ligne de crédit de 7,5 milliards d'euros prévue dans le cadre du troisième plan de sauvetage de 86 milliards d'euros signé en juillet 2015. Sans cet argent, le gouvernement grec ne peut faire face au paiement de 7 milliards dus en juillet pour rembourser ses créanciers, au premier rang desquels figurent la Banque centrale européenne, la BCE, et le FMI, le Fonds monétaire international. Le gouvernement grec ne peut pas non plus se refinancer directement sur les marchés sans accord. Les dettes de la Grèce ne sont pas éligibles auprès de la BCE et ne bénéficient donc pas de garanties. Alors la Grèce qui est face à l'impasse dans le grand ensemble européen et repart les mains vides de Bruxelles, c'est le propos de Mediapart dans cet article qui est signé par Martine Orange. On reste en Europe. Une coalition penchant à droite est envisagée aux Pays-Bas. Voilà une nouvelle qui paraît dans le fil de l'agence Reuters. Le parti libéral, le VVD, du premier ministre néerlandais Mark Rutte, devrait chercher à former une coalition gouvernementale avec ChristenUnie, CU, une formation conservatrice sur le plan sociétal mais libérale sur le plan économique, après l'échec de discussions avec d'autres partis, a déclaré lundi la médiatrice chargée de conduire ces négociations. Et on revient dans les colonnes de Libération un instant pour parler de l'Espagne. Sanchez, farouche opposant de Rajoy, reprend la tête du Parti socialiste. C'est dans le fil de l'agence France-Presse. Pedro Sanchez a remporté dimanche la primaire du Parti socialiste espagnol, menaçant la stabilité du gouvernement minoritaire de Mariano Rajoy. Déboulonné par la hiérarchie du parti en octobre dernier, Pedro Sanchez a réussi un retournement spectaculaire dimanche, écrit Libération. Il a remporté 50% des voix contre 40%. 40% pour son opposante Susana Díaz, la candidate des barons du Parti socialiste ouvrier espagnol. Sanchez a séduit les militants en continuant à attaquer sans relâche Mariano Rajoy et son parti populaire, le PP, secoué par des scandales de corruption. Dans le portail de Ouest-France, à présent, une nouvelle à propos de l'Extrême-Orient, des tirs de l'armée sud-coréenne contre un possible drone nord-coréen. L'armée sud-coréenne a procédé mardi à des tirs de sommation contre un objet non identifié, possiblement un drone volant dans la zone frontalière avec la Corée du Nord. L'armée sud-coréenne n'a pas précisé la nature de cet appareil ni si ce dernier a été atteint par les tirs, mais il a par la suite disparu des écrans radars. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap rapporte qu'il s'agissait d'un drone et que l'armée a tiré à plus de 90 reprises. La Corée du Nord a déjà envoyé des drones dans l'espace aérien sud-coréen et certains se sont écrasés. La Corée du Sud a effectué en janvier 2016 des tirs de sommation contre un drone qui avait fait demi-tour. Et évidemment, cet incident survient dans un contexte très tendu, rappelle cet article de Ouest-France. Je vous rappelle la manchette, des tirs de l'armée sud-coréenne contre un possible drone nord-coréen. Toujours dans Ouest-France, à propos de Tunisie, la tension monte dans le sud du pays. Les autorités tunisiennes ont mis en garde contre un dérapage de la situation dans la région de Tataouine, dans le sud du pays, où un manifestant a été tué lundi lorsqu'un sit-in a dégénéré en affrontement avec les forces de l'ordre. Aucun incident n'était à signaler mardi matin à Tataouine et à El Kamour, site désertique à une centaine de kilomètres de là où campent depuis près d'un mois des habitants réclamant une meilleure répartition des richesses et des recrutements prioritaires dans les sociétés pétrolières. La veille, un jeune manifestant tunisien avait été écrasé accidentellement par un véhicule de la garde nationale, selon les autorités. Une manifestation de soutien à Tataouine, qui est à 500 km au sud de la capitale Tunis, a dégénéré et les postes de police et de gendarmerie ont été incendiés dans la région. Une vingtaine d'agents des forces de l'ordre ont été blessés dans les affrontements. Au Mali maintenant, deux casques bleus tués dans une attaque dans le nord du pays. Deux casques bleus de l'ONU ont été tués au Mali et un troisième blessé ce mardi dans une embuscade tendue aux environs d'Agueol, au nord-est, près de la frontière algérienne, a annoncé la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Au moment de l'attaque, les casques bleus effectuaient une patrouille à pied vers 8h30 heure locale, a précisé la force de l'ONU dans un communiqué sans révéler leur nationalité. Une source militaire au sein de la force de l'ONU a affirmé à l'AFP qu'ils appartenaient au contingent tchadien. Cette attaque s'ajoute à une vague de violence qui, au cours des dernières semaines, a ciblé sans distinction les populations civiles, les forces armées maliennes et les forces internationales, a souligné le chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Arnadif, cité dans ce communiqué. Nouvelle environnementale à présent dans cette revue de presse internationale du débrief. En Inde, les énergies solaires sont désormais moins chères que les énergies fossiles. C'est ce que nous apprend cet article paraissant sur le portail Combini, signé par Jeanne Pouget. En Inde, les énergies solaires n'ont jamais été aussi peu chères, ce qui les rend désormais plus abordables que les énergies fossiles. Les observateurs n'avaient pas tablé sur une progression aussi fulgurante, écrit-elle. Et pourtant, en Inde, deuxième pays le plus peuplé du monde après la Chine, les énergies renouvelables solaires coupent l'herbe sous le pied aux énergies fossiles et plus vite que prévu, ce qui rend le pays de plus en plus susceptible de tenir les engagements fixés lors de l'accord de Paris sur le climat en décembre 2015. Donc voilà un pays qui va plus rapidement en affaires que le Canada. On pourrait peut-être s'en inspirer. Je poursuis la lecture un peu plus bas. L'Inde avait en effet ratifié en octobre dernier le traité issu de la COP21 destiné à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Une contribution qui passe par un investissement massif dans l'énergie solaire et un espoir pour ce pays, troisième pays plus pollueur du monde après la Chine et les États-Unis, dont 60% de l'électricité dépend des très polluantes centrales de charbon. Donc l'Inde tire toujours son électricité en grande partie du charbon, mais ce que nous dit cet article, c'est que le solaire fait des pas de géant dans ce pays, dans la foulée d'une chute de 40% des prix de cette énergie. Alors l'énergie solaire est 40% moins chère qu'elle l'était encore récemment. Un article fascinant qui se base sur une revue de presse du secteur, c'est écrit par Jeanne Pouget dans le portail Combini. En Inde, les énergies solaires sont désormais moins chères que les énergies fossiles. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez des Macron Leaks, c'est cette fuite d'informations sur la campagne d'Emmanuel Macron qui avait été dévoilée quelques jours seulement avant le 7 mai, le grand rendez-vous électoral du deuxième tour de la présidentielle française. Il semble qu'il y ait des documents qui valent la peine d'être examinés dans les Macron Leaks. C'est ce que nous indique Mediapart en substance dans cet article. Macron Leaks, les secrets d'une levée de fonds hors normes. Pour financer sa campagne, Emmanuel Macron a réussi à mobiliser près de 13 millions d'euros de dons en un temps record, écrit le journal Mediapart. Loin de l'image cultivée par son mouvement En Marche, celle d'une campagne aussi spontanée que populaire, c'est plutôt un puissant réseau de banquiers d'affaires qui a discrètement financé la campagne du président Emmanuel Macron, nous révèle Mediapart dans cet article fascinant. Donc, ils ont éplucher, passer au peigne fin les Macron Leaks et notamment se sont intéressés à la question du financement de la campagne d'Emmanuel Macron. Beaucoup de banquiers d'affaires donc ont contribué au succès de ce candidat. On va poursuivre cette revue de presse internationale dans les colonnes de Mediapart. Un article tout aussi fascinant sur la mafia italienne. C'est intitulé « Drogue et jeux. La grande lessiveuse de la mafia italienne passe par Malte ». Les Malta Files, révélés par Mediapart et l'European Investigative Collaborations, documentent la place centrale occupée par la petite île de Malte, en Méditerranée, dans le blanchiment des activités criminelles de la mafia italienne. La force du système repose sur sa sûreté, écrit Mediapart. Aucun contrôle n'est imposé sur l'argent qui provient d'Italie. Alors, c'est sur cet article de Mediapart que se referme la revue de presse internationale des mardis 23 mai et mercredi 24 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques secondes avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition des 23 et 24 mai. Nous allons passer maintenant aux nouvelles canadiennes. Votre revue de presse nationale débute immédiatement et ça commence avec une nouvelle sur les pensionnats autochtones. Trudeau pourrait demander des excuses au pape, c'est ce que nous indique cet article de la presse canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau pourrait bien profiter de sa visite au Vatican dans quelques jours pour demander au pape François les excuses officielles de l'Église catholique concernant les sévices commis par des prêtres dans les pensionnats fédéraux pour autochtones. Justin Trudeau aura une audience privée avec le pape le 29 mai dans le cadre de son passage en Europe pour les sommets de l'OTAN et du G7. La Commission de vérité et réconciliation du Canada avait notamment recommandé dans son rapport que le pape présente les excuses officielles de l'Église à tous les survivants des pensionnats pour autochtones. La Commission émettait le souhait que ces excuses soient présentées en sol canadien. Justin Trudeau, qui s'est engagé à respecter les 94 recommandations du rapport, a déjà promis de discuter avec le pape d'excuses officielles de l'Église, tout en précisant qu'il ne pouvait le forcer à accéder à une telle requête. Le Vatican a déjà publié en 2009 une déclaration dans laquelle le pape précédent, Benoît XVI, exprimait ses regrets pour le traitement des enfants autochtones dans les pensionnats. Dans les colonnes du journal Le Devoir, à présent, sous la plume de la journaliste Amélie Pineda, le Canada prêt à doubler son budget de défense d'ici 2024. Pressé par le président américain Donald Trump de dépenser davantage dans le secteur de la défense, le Canada entend respecter la demande de l'OTAN d'y consacrer 2% de son PIB d'ici 2024, ce qui doublera son investissement actuel d'environ 20 milliards de dollars. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le président Trump accuse plusieurs membres de l'OTAN de profiter de la sécurité collective sans payer leur juste part. En 2014, tous les pays de l'OTAN s'étaient entendus pour cesser les compressions budgétaires dans le secteur de la défense pour y consacrer éventuellement 2% de leur PIB. Vendredi, de passage au troisième forum Saint-Laurent sur la sécurité internationale qui s'est tenu à Montréal, Martin Benjamin de la Direction générale de la stratégie pour l'Amérique du Nord aux affaires mondiales Canada a abordé la question du budget alloué à la défense nationale en parlant des relations entre les pays de l'Amérique du Nord. Il est vrai que les États-Unis font pression sur leurs alliés, dont le Canada, pour qu'ils augmentent leurs dépenses en matière de dépenses, a souligné M. Benjamin. Pour être clair, le Canada est résolu à respecter sa promesse d'investissement dans la défense au sein de l'OTAN et à y consacrer 2% de son PIB d'ici 2024. On va se transporter dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Actualité pour parler de la succession de Stephen Harper au Parti conservateur du Canada. Pourquoi la victoire de Maxime Bernier est presque dans la poche? C'est sous la plume de Brian Breguet. Selon des modèles statistiques, pour que Maxime Bernier perde cette course, il faudrait un report massif des deuxièmes choix vers le même adversaire. Après de longs mois de campagne, le Parti conservateur du Canada connaîtra son nouveau chef le 27 mai, rappelle le journaliste. Des 13 prétendants toujours en lice, certains sont en meilleure position, à commencer par Maxime Bernier, le député de Beauce, à la lumière du financement qu'il a récolté. Il est difficile de prédire l'issue de cette course, poursuit l'actualité, puisque seuls les membres inscrits peuvent voter. Le mode de scrutin où chaque circonscription vaut 100 points, peu importe le nombre de votes ou de membres, pose aussi problème. Si un comté n'a qu'un seul membre, celui-ci donne 100 points à son candidat. À l'inverse, dans une circonscription de 100 membres, recevoir un vote signifie 1% du total, donc seulement un point. Vous l'aurez compris, poursuit le journaliste, la distribution des votes a son importance et il est pratiquement impossible de la prédire avec précision. Enfin, si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des points, on élimine le candidat arrivé dernier et on redistribue ses votes. Cela veut dire qu'une prévision se doit d'inclure le deuxième choix des électeurs et techniquement les troisième et même quatrième choix des électeurs. Le journaliste propose un récapitulatif. Bernier était déjà en tête avant que Kevin O'Leary ne décide de jeter la serviette. Maintenant, il devrait bénéficier, Maxime Bernier devrait bénéficier du report de près de la moitié des partisans de Kevin O'Leary. Donc, ça le place dans une position très confortable. Et si le financement est effectivement un indicateur des votes des membres, poursuit cet article, cela signifie que Bernier pourrait obtenir près de 40% au premier tour, loin devant Kelly Leach et Andrew Scheer, qui sont ses rivaux. Donc, si vous voulez approfondir dans cet article pourquoi la victoire de Bernier est presque dans la poche, c'est dans l'hebdomadaire L'Actualité. Toujours à propos de cette course à la succession de Stephen Harper, un article paraissant dans La Presse, ça provient du fil de La Presse canadienne sous la plume de Stéphanie Levitz. Le prochain chef du PCC, donc le Parti conservateur, devra rallier toutes les forces du parti, prévient Rona Ambrose, qui était chef intérimaire. Rona Ambrose était devenue chef intérimaire des conservateurs fédéraux en promettant de dénicher les leaders de demain. Apparemment, cela ne voulait pas dire qu'elle voterait pour le chef d'aujourd'hui. Rona Ambrose indique cet article ne prendra effectivement pas part au scrutin postal qui se clôturera le 27 mai à l'occasion du congrès à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Dans une entrevue de fin de mandat, il y a quelques jours, Rona Ambrose a expliqué qu'elle souhaite conserver sa neutralité jusqu'au bout. Elle offre d'ailleurs ce conseil à celui ou celle qui deviendra chef du Parti conservateur du Canada, rallier toutes les forces du parti. C'est là aussi le seul conseil que lui a prodigué son prédécesseur Stephen Harper. Rien ne compte davantage que le caucus. Lorsqu'elle a contemplé le caucus au lendemain de la défaite électorale d'octobre 2015, Rona Ambrose a dû admettre que l'essentiel de la mémoire et de l'expérience de ce parti avait fondu dans les urnes. Elle aurait pu suivre le courant et quitter la politique. Elle a décidé non seulement de rester, mais de briguer la direction intérimaire afin de conserver ce que Stephen Harper avait construit et de jeter des bases pour l'avenir de ce parti. Et comme cette course aura lieu dans quelques jours seulement, on va continuer d'en parler. Un petit portrait de Kelly Leach, toujours dans les colonnes du journal La Presse, sous la plume de Joël Denis Bellavance. Kelly Leach défend son test des valeurs canadiennes. Première à se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur l'an dernier, l'ancienne ministre du Travail, Kelly Leach, ne passe pas par quatre chemins quand on l'invite à expliquer pourquoi elle veut succéder à Stephen Harper. Parce que je vais battre Justin Trudeau en 2019, en anglais et en français, a-t-elle déclaré aux journalistes. Elle s'est démarquée des autres candidats, écrit Joël Denis Bellavance dans cet article, en proposant d'imposer un test des valeurs canadiennes aux immigrants qui veulent s'installer au Canada. Alors que les membres du Parti conservateur sont en train de faire le choix en remplissant leur bulletin de vote dans le confort de leur maison avant de l'envoyer à la permanence du parti au plus tard vendredi prochain, Kelly Leach affirme avoir à sa disposition une solide organisation qui causera la surprise lorsque les résultats du vote seront dévoilés à Toronto le samedi 27 mai. Dans une entrevue accordée au journal La Presse qui s'est déroulée presque entièrement en français, Kelly Leach a affirmé que sa promesse d'imposer un test des valeurs canadiennes, critiquée par la majorité de ses adversaires, cette décision donc d'imposer un test est appuyée par la majorité des Canadiens selon elle. Ma politique sur l'immigration, dit-elle, est très importante. Les autres pays du monde ont adopté de nouvelles lois, de nouvelles règles pour mieux encadrer le système d'immigration. Mais ici, au Canada, le gouvernement libéral continue de se mettre la tête dans le sable. On parle du premier ministre Trudeau à présent et d'un sujet qui touche de très près la Colombie-Britannique. Justin Trudeau apporte de nouveau son soutien au projet Trans Mountain. C'est dans la presse canadienne. Le premier ministre Justin Trudeau soutient qu'il travaillera de pair avec la Colombie-Britannique et l'Alberta pour aller de l'avant avec l'engagement de son gouvernement de créer des emplois tout en effectuant la transition vers une économie qui affiche une faible production de carbone. Justin Trudeau avait été interrogé il y a quelques jours au sujet de la possibilité que la Colombie-Britannique se retrouve avec un gouvernement qui s'oppose à l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain. Il a laissé entendre que les néo-démocrates de la province de l'Ouest et Verts qui s'opposent au projet ont tort d'adopter une telle position. Justin Trudeau a fait valoir au cours d'un événement à Surrey que les Canadiens comprennent la nécessité de protéger l'environnement tout en bâtissant en même temps une meilleure économie. Alors le premier ministre qui continue d'assumer cette position en même temps, donc en même temps l'économie et protection de l'environnement. Selon plusieurs observateurs, c'est une position qui est irréconciliable. C'est un grand écart. On se souviendra qu'il y a quelques jours, la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, avait elle aussi lancé, et plus clairement, en des termes beaucoup plus directs, un avertissement à la Colombie-Britannique, advenant un gouvernement néo-démocrate soutenu par le Parti vert. Et la première ministre avait averti la Colombie-Britannique de ne pas renoncer à son soutien pour l'expansion du pipeline Trans Mountain dans la province. Et toujours à propos de l'oléoduc ou de pipeline, si vous préférez. Un article dans le journal Le Devoir nous indique que TransCanada refuse de dire si le pipeline Énergie Est nuirait à des espèces menacées sur son parcours. Même si le gouvernement Couillard au Québec a autorisé TransCanada à réaliser des travaux préliminaires en vue de la construction du pipeline Énergie Est, il n'est pas possible de savoir s'ils ont pu empiéter sur l'habitat d'espèces menacées ou vulnérables. Québec n'a pas été en mesure de fournir de telles informations et la pétrolière Albertaine a refusé de transmettre l'essentiel des données sur la présence de ces espèces, malgré une demande présentée par le journal Le Devoir en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Et on peut souligner, justement à propos de cet article et à propos du pipeline TransCanada, que cet oléoduc va traverser non moins de 800 cours d'eau s'il est effectivement construit. Donc si vous vous intéressez à ce sujet, c'est dans le journal Le Devoir. TransCanada refuse de dire si le pipeline Énergie Est nuirait à des espèces menacées. Et on termine avec une nouvelle sur le voyage de Philippe Couillard, premier ministre du Québec, au Moyen-Orient. Couillard veut susciter l'intérêt de Netanyahou pour le Québec. C'est dans le journal La Presse et c'est signé par la journaliste Jocelyne Richer. Le premier ministre Philippe Couillard profitera de sa rencontre avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou jeudi à Jérusalem pour tracer un parallèle entre le Québec et l'État hébreu. Le premier ministre Couillard a dit anticiper cet échange avec beaucoup d'intérêt dans l'espoir qu'il contribuera à resserrer les liens économiques entre le Québec et Israël. On me dit que c'est un homme très discret, alors je vais lui parler très directement du Québec, a commenté Philippe Couillard lors d'une mêlée de presse mardi, en marge d'une allocution devant un parterre de gens d'affaires réunis par la Chambre de commerce Canada-Israël dans le cadre de la mission qu'il dirige depuis vendredi dans cette région du Moyen-Orient. Philippe Couillard cherchera à provoquer chez son interlocuteur une étincelle d'intérêt, dit-il, pour le Québec et le goût d'en savoir plus pour ainsi entraîner des retombées. Les deux États ont plusieurs points communs, rappelle cet article de Jocelyne Richer, dont notamment leur taille, environ 8 millions de personnes, et le fait de constituer des sociétés minoritaires et différentes par leur langue et leur culture, des grands ensembles dont ils font partie. Et dans les deux cas, a poursuivi le premier ministre lors de cette mêlée de presse, pour prospérer, ils ont dû innover et exporter leurs produits, ayant su tirer profit de leur situation particulière. Le premier ministre Couillard se dit bien préparé pour cette rencontre, ayant lu abondamment sur l'histoire du Moyen-Orient et suivant de très près, avec beaucoup, beaucoup d'attention, dit-il, l'actualité qui traite de cette région trouble de la planète. Je connais très bien le spectre politique ici en Israël, la complexité également de la politique israélienne, a-t-il affirmé à la presse. Sur le plan diplomatique, poursuit cet article, il est intéressant de noter que Benjamin Netanyahou ait accepté de rencontrer Philippe Couillard, même si ce dernier ne dirige qu'une province et non un pays. Alors, je rappelle le titre de cet article. Philippe Couillard veut susciter l'intérêt de Benjamin Netanyahou pour le Québec. Alors ici se conclut la revue de presse nationale pour les 23 et 24 mai. L'émission Le Débrief vous revient dans quelques secondes avec votre rubrique Francophonie du jour. À tout de suite. Maintenant que les revues de presse internationales et nationales sont bouclées, nous vous présentons la rubrique Francophonie pour les 23 et 24 mai. L'article provient du portail TFO, la chaîne francophone de l'Ontario. C'est sous la plume du journaliste Benjamin Vachet. Les nouveaux sénateurs francophones prennent leur place à Ottawa. C'est le titre de cet article. Nouveau venu à la Chambre haute, les sénateurs francophones de l'extérieur du Québec, Raymond Gagné, René Cormier et Lucie Moncion, découvrent progressivement leurs nouvelles fonctions et les nombreuses attentes placées en eux pour représenter et faire entendre les francophones en milieu minoritaire. Voilà plus d'un an que Raymonde Gagné a été nommée au Sénat, écrit Benjamin Vachet dans cet article. L'ancienne rectrice de l'Université Saint-Boniface, nommée en remplacement de Maria Chaput, a, selon ses dires, vécu une année de découverte enrichissante aussi bien personnellement que professionnellement. C'est un travail très demandant, mais aussi passionnant, a expliqué la sénatrice franco-manitobaine qui s'investit dans le comité sénatorial de l'agriculture et des forêts, le comité spécial sur la modernisation du Sénat et le comité des langues officielles. Les langues officielles sont au cœur de ce que je souhaite faire comme sénatrice, a-t-elle commenté. Il faut rester vigilant dans ce domaine car on a vite fait de perdre de vue cette valeur fondamentale pour notre pays. Je pense qu'il n'y a pas assez d'investissements qui sont faits, notamment dans la promotion et l'apprentissage des deux langues officielles à travers tout le Canada. Les trois nouveaux sénateurs francophones de l'extérieur du Québec, nommés depuis l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau, ont tous naturellement choisi de siéger sur le comité des langues officielles. C'est un privilège de pouvoir représenter les Acadiens et de porter leurs aspirations, a commenté René Cormier. La seule chose que je veux, c'est être à la hauteur de leurs attentes et suivre les traces de mes prédécesseurs. Je veux donner sa place à l'Acadie dans la francophonie canadienne et internationale. Nommé le 27 octobre dernier, l'ancien président de la Société nationale de l'Acadie, la SNA, donc René Cormier en l'occurrence, se dit surpris par l'aspect très concret des travaux du Sénat, tout en soulignant les longues heures de travail que suppose cette fonction. Nous regardons vraiment l'impact concret de chaque projet de loi dans la vie des Canadiens avec beaucoup de rigueur et une volonté d'approfondir les enjeux en se basant sur les faits. C'est un univers très différent pour moi et c'est passionnant, dit-il. Même son de cloche du côté de la sénatrice franco-ontarienne Lucie Moncion, nommée le 31 octobre dernier et qui vient du monde des affaires. C'est un peu comme si j'étais retournée à l'école, a-t-elle déclaré aux journalistes de TFO. On touche tellement de domaines. En tant que franco-ontarienne au Sénat, il est impératif pour moi d'être à la table des discussions, a-t-elle poursuivi. La volonté déclarée progressivement de dépolitiser le Sénat comporte ses défis pour les trois nouveaux sénateurs qui ne sont officiellement affiliés à aucun parti politique. Cela suppose de revoir les règlements et les procédures, a expliqué Madame Gagné. On sent qu'il y a encore une certaine résistance. Ça va prendre du temps. Comme ses collègues issus de la francophonie en milieu minoritaire, la sénatrice Moncion sait que la communauté franco-ontarienne compte beaucoup sur elle pour la représenter. Alors qu'historiquement, la tradition accordait deux places aux franco-ontariens à la Chambre haute, elle en est actuellement la seule représentante. J'espère qu'il y aura d'autres nominations, a-t-elle déclaré. Sur les 24 sièges de l'Ontario, je pense que c'est possible et souhaitable qu'il y ait d'autres franco-ontariens de différents milieux. Le Sénat compte actuellement 7 sièges vacants, dont 2 pour l'Ontario. De quoi nourrir les espoirs de voir nommer un autre franco-ontarien pour siéger au Sénat. L'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, la FO, ne s'y est pas trompée en lançant une campagne sur les médias sociaux à l'attention du premier ministre Justin Trudeau pour lui demander de nommer un sénateur ou une sénatrice francophone de l'Ontario. Avoir des francophones de l'extérieur du Québec au Sénat permet de ne pas prendre les langues officielles pour acquises. Nous avons un vécu qui nous aide à le comprendre, a souligné Madame Gagné dans cet article. Article que vous trouverez sur le portail TFO, je le répète, tfo.org, c'est signé par le journaliste Benjamin Vachet. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition des 23 et 24 mai de l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9, votre fréquence communautaire francophone dans la grande région de Victoria. J'ai le plaisir de retrouver en studio Teal Phelps Bondaroff. Bonjour Teal.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, merci d'être là. Et je rappelle à nos auditeurs que tu es docteur en politique internationale de l'Université de Cambridge. Tu suis la politique provinciale de très près.
Ouais.
Tu étais l'un des conseillers du candidat néo-démocrate dans Oak Bay Gordon Head, ici sur l'île de Vancouver. Donc, tu as suivi l'élection de très près. Tu étais engagé dans le feu de l'action.
Ouais, c'est ça.
Alors, je suis très heureux de te retrouver en studio pour avoir un peu tes lumières, tes impressions, tes observations, ton analyse sur le résultat du scrutin provincial. Alors, on va commencer par une question qui s'impose puisque c'est un résultat mitigé, incertain. Alors, l'issue définitive du scrutin étant encore indéterminée, Teal, est-ce qu'on peut prédire qui dirigera la Colombie-Britannique?
Ça, c'est une bonne question parce que, comme vous avez dit, il reste encore 170 votes pour compter encore. Et nous avons des conscriptions comme Courtney Comox qui était décidée ou qui n'est pas encore décidée par 9 votes. Alors, je pense que c'est très difficile de rendre une décision encore à ce moment. Je pense que nous allons savoir un peu plus à la fin de la mois. Mais je sais qu'il y a une chose dont les voteurs de Colombie-Britannique a dit, et c'est qu'ils ne veulent pas un gouvernement libéral. Presque 60% des personnes ont voté contre le Parti libéral de Christy Clark. Alors, selon moi, ça c'est un bon signe que les personnes veulent le changement. Peut-être pas le changement aussi certain, mais à la fin de la journée, le changement.
D'accord. Donc, il y a une lassitude, il y a une fatigue, il y a une Clark fatigue, on pourrait peut-être dire. Alors, ça s'est manifesté dans le résultat du vote. À présent, on a une situation avec trois protagonistes, trois joueurs, et les discussions sont en cours, et nul ne peut prédire ce qui va arriver. Ça se passe derrière des portes closes.
Mm-hmm.
On ignore exactement quelle stratégie emploie le chef Weaver, le chef Organ, la première ministre sortante Christy Clark. Plusieurs voix progressistes se sont fait entendre ces derniers jours pour avertir Andrew Weaver de ne pas conclure d'entente avec Christy Clark. Alors, quels sont les arguments de ces gens qui se réclament de la gauche en Colombie-Britannique qui demandent à Weaver de faire attention à Christy Clark?
Oh, c'est intéressant parce que comme nous avons discuté il y a quelques semaines, la partie verte de Canada et la partie verte de Colombie-Britannique ont des fois des difficultés d'être localisés sur l'échiquier politique. Des fois, elles choisissent des policiers de la gauche, des fois de la droite, des fois des policiers plus populistes. Alors, selon moi, c'est intéressant la décision de Weaver et les élargissements des progressifs parce que il reste des décisions. Il y a des voteurs qui votent pour la partie verte qui supportent les causes de l'environnement. Et je pense que la partie de NPD et la partie verte ont des valeurs très similaires à la question de l'environnement. Mais il y a encore les deux différents types de voteurs de la partie verte. Un, c'est des personnes qui votent pour la personnalité. Alors, les personnes qui aiment M. Weaver, mais pas nécessairement la partie, ou dans le contexte de Oak Bay Gordon Head, des personnes qui sont un peu plus conservateurs, mais n'aiment pas les libérales. 16 ans, c'est beaucoup trop longtemps pour Christy Clark. Alors, des personnes qui veulent un peu de changement, mais veulent pas de changement d'NPD. On sait pas. Et puis, il y a un troisième type de voteur qui est un peu de wild card, de façon, et c'est les voteurs anti-établissement. Et des fois, les personnes votent pour la partie verte de ce contexte, pas parce qu'ils ont vraiment des valeurs très puissantes pour l'environnement, mais parce qu'ils n'aiment pas la situation formelle de la politique. Et ça introduit une question très intéressante pour la partie verte. C'est un parti qui a promis, par exemple, qu'ils vont arrêter les votes soumis à la discipline. Alors,
Et
je peux parler à ça pour beaucoup de temps.
Ça, c'est la promesse qu'a faite Weaver. Il n'imposera pas la ligne de parti ses élus, à ses deux élus.
Ouais, c'est ça. Alors, ça introduit un aspect un peu bizarre parce que s'il y a une de coopération entre les partis. On sait pas, et M. Weaver poursuit une position. C'est très difficile à la partie verte de dire nous allons soutenir une politique ou une position parce qu'ils n'ont pas la discipline de la partie. Mais pour retourner à votre question, oui, je pense que la partie verte a des valeurs très similaires, il partage des valeurs avec la NPD, et aussi ça sera très difficile pour créer une coalition formale avec n'importe quel parti, soit les libéraux, soit la NPD. Alors, à la fin de la journée, je pense que nous allons avoir une situation de coalition informelle et beaucoup de négociations, que selon moi, c'est bon pour la politique.
D'accord. Alors, d'après toi, est-ce que Weaver va se ranger du côté de Clark ou du côté de Horgan?
Ben, c'est très difficile à dire. Dans le passé, il a collaboré avec les libéraux pour quelques différentes policies et aussi pour quelques budgets.
Mais ça semble un peu incroyable, puisque les libéraux ne s'intéressent pas à l'environnement. Ouais, ils n'ont manifesté aucun intérêt, aucun engagement pour la cause environnementale. Alors, qu'est-ce que les Verts iraient faire dans un gouvernement libéral? Il se ferait trahir par Christy Clark, il se ferait tromper.
Ça, c'est la raison dont on ne sait jamais. Il y a encore les personnes qui... On ne sait pas le résultat parce que les Verts ont voté avec les libéraux quelques fois, mais aussi avec les NPD sur les autres policiers et les motions dans la législature. Et aussi, comme j'ai dit, les Verts et les NPD ont des valeurs en commun. Alors, selon moi, c'est moins probable qu'on va avoir la coopération avec les libéraux et les Verts, mais à la fin de la journée, on ne sait jamais, parce que des fois, le pouvoir change les pensements des personnes, les calculations des gens, mais c'est toujours une situation, je pense que ça va être une situation imbalancée, sans une situation concrète, jusqu'à cause à fait qu'à la fin de la journée, on a besoin encore un président de la Chambre.
Oui.
Alors, il y a beaucoup d'opportunités pour les partis. Peut-être qu'on va avoir un président de la Chambre de notre parti, on a besoin de se souvenir que le président de la Chambre a besoin de voter d'une façon de ne pas déséquilibrer la situation au moment. Alors, un vote d'un président de la Chambre peut-être va aller contre le gouvernement, mais ça dépend de la situation.
C'est un vote décisif, en l'occurrence.
Oui, mais c'est un vote décisif, mais un vote qui ne peut pas changer le status quo d'une façon. Alors, c'est une situation où on ne compte pas les résultats.
Alors, actuellement, c'est 43 pour les libéraux, 41 pour le parti néo-démocrate et 3 pour le parti vert. Le comptage des votes des électeurs absents va débuter. Il y a des recomptages dans des comtés chaudement disputés qui va avoir lieu également. Quelles sont les chances que, par exemple, le NPD monte à 44 et que le Parti libéral descende à 40 ou que, inversement, quelles sont les chances que ces chiffres-là, 43, 41, 3, changent?
Ben, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de différentes conscriptions et c'est différent dans chaque place. Comme j'ai dit, Courtney Comox, c'était décidé ou c'était peut-être décidé par 9 votes. Alors, ça, c'est selon moi une bonne raison pour aller voter. Mais à la fin de la journée, je pense que c'est pas responsable de faire beaucoup de spéculations parce que les votes en avance, les votes qui n'étaient pas encore comptés, on ne sait pas vraiment où la direction. Il n'y a pas vraiment la direction directe et c'est différent pour chaque conscription.
D'accord. Alors,
selon moi, c'est très intéressant pour regarder pendant les prochaines semaines, mais les numéros, je pense qu'il y en va peut-être des petits changements, mais
c'est vrai, il y a le vote par anticipation, il y a le vote des électeurs qui sont à l'extérieur de la Colombie-Britannique, et il y a le recomptage des luttes qui sont très serrées.
Et si vous rappelez de la dernière élection, par exemple, Jane Chin, une députée pour Burnaby de NPD, était décidée dans un recomptage. Il y avait peut-être presque 2 mois après l'élection.
Aïe.
Alors, il risque des fois d'avoir une décision vraiment allongée.
Oui.
C'est pas vraiment un grand problème parce que le législateur ne commence pas jusqu'à le 2 octobre.
Oui.
Alors, il est parti à 5 mois pour régler les choses. Mais c'est 5 mois un peu intéressant pour...
Oui, mais on va peut-être passer l'été au complet sans premier ministre ou sans première ministre officielle.
Ben, je pense que Christy Clark est encore la première ministre jusqu'à ce que on parle à le gouverneur général.
La gouverneure, c'est une femme.
Ouais, Judith Guichon. Ouais.
Elle a demandé à Christy Clark de rester en poste en attendant les résultats finaux.
Okay. Mais on va pas avoir des grands changements, des grands votes, les choses qui sont importantes pour les personnes.
Voilà.
quand nous parlons des questions comme logement abordable ou l'éducation ou le soin des enfants, c'est des questions dont je pense que les personnes veulent des décisions plus rapidement que 5 mois, mais on va voir.
Oui. Et il y a les causes qui sont importantes pour Weaver aussi, le site C, j'imagine la taxe carbone, les pipelines. Ça, c'est des dossiers qu'il va être tenté de faire avancer en négociant avec Christy Clark.
Mais quand on nous parle des valeurs, les policies similaires entre les Verts et les NPD, on voit, ouais, comme vous avez dit, mais nous avons encore les soins des enfants, le logement abordable et puis le protéger des côtes des pétroliers. Mais selon moi, la question la plus grande qui relève de l'élection, c'est la question de la réforme électorale.
Oui.
Parce que on a vu un électorat qui, je pense, n'aime pas la question des grands, le problème des grands dents des corporations et des syndicats.
Oui.
Et aussi encore des personnes qui n'aiment pas le système de vote.
Selon moi,
le système de first past the post, c'est un système qui crée une situation structurelle qui n'est pas vraiment bon pour la discussion des policies. Alors, la situation dont nous trouvons maintenant, c'est bon pour le débat, c'est bon pour l'engagement, les négociations.
Ouais.
Et je pense que le changement, ça vient, ou ça a besoin de venir. Alors,
et le Parti néo-démocrate et le Parti vert s'entendent très bien sur la question de la réforme du scrutin. Ils veulent chacun la proportionnalité, éventuellement. C'est leur souhait. Donc, là-dessus, ils s'entendent. Mais un des gros obstacles à un rapprochement entre le NPD et le Parti vert, on dirait que c'est la personnalité des chefs. Je ne sais pas si c'est une rumeur ou si c'est une réalité. On dit que les deux personnalités, Organ, Weaver, ne sont pas vraiment compatibles. Est-ce que c'est vrai?
Ben, je pense que les personnes, les bons dirigeants sont prêts à laisser peut-être les personnes, les questions personnelles de la personnalité à la côté pour vraiment prendre de bonnes décisions. Selon moi, un bon dirigeant est prêt à aider les personnes avec le logement ou réformer notre système électoral. Et ça, c'est plus important que les petits problèmes personnels. Ben, à la fin de la journée, ils viennent des différents partis. Ils ont des valeurs en commun, mais pas toutes en commun. Comme je vous avais dit, il y a un élément populiste et des fois des policiers de la droite qui entrent dans le manifeste de la partie verte.
Mm-hmm.
Alors, nous sommes en accord de quelques questions, mais pas toujours.
Ouais.
Et selon moi, la coopération est plus importante en ce moment que de laisser un gouvernement Christy Clark détruire la province pour un autre 4 ans.
Oui.
Mais je pense pas que ça, c'est aussi probable que ça aussi.
D'accord. Et le Taillis faisait observer dans un article récent que Weaver est élu dans une circonscription qui est très riche. La moyenne des revenus dans Oak Bay, Oak Gordon Head, c'est 25% supérieur à la moyenne britanno-colombienne.
Je pense que c'est la deuxième plus riche hors de Vancouver.
Donc il y a une sensibilité forcément un peu bourgeoise, on peut peut-être employer ce terme-là, faute de mieux. Donc Weaver a quand même une certaine fibre de droite, quelque part, dans sa personnalité, dans sa vision des choses. Mais bon, ça reste à confirmer. On le connaît peut-être pas complètement, vu qu'il n'a pas exercé le pouvoir vraiment. On a appris il y a quelques jours que Norman Spector allait participer aux négociations entre le Parti vert et le Parti libéral à titre de médiateur. Alors, Norman Spector, c'est un ancien chef de cabinet de Brian Mulroney. C'est un monsieur qui est très marqué à droite. Est-ce que tu as suivi ça un petit peu?
Non, j'ai pas suivi beaucoup. Et aussi, c'est difficile des fois de dire les négociations entre différents partis. Ce qui fait des partis, c'est souvent ils prennent des personnes qui ont déjà fait des négociations. Ici, en Colombie-Britannique, nous n'avons pas eu un gouvernement minoritaire depuis 1952.
Ouais.
Alors, il ne reste pas beaucoup de personnes dans le gouvernement qui connaissent la situation. Peut-être M. Salton, mais autre que ça, il n'y a aucune personne.
Mais en fait, il faut quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement de Westminster à travers le monde. Quelles configurations sont possibles? Quelles solutions sont possibles? On a vu l'exemple de l'Irlande cette semaine. Le premier ministre irlandais a dû démissionner après seulement 1 an à titre minoritaire parce que à un moment donné c'est intenable, c'est difficile de continuer quand le pouvoir n'est pas le nombre de sièges n'est pas assez élevé. Donc peut-être que ma question ce serait dans l'éventualité d'un gouvernement conjoint entre Oregon et Weaver, est-ce que ça pourrait durer très longtemps, selon toi?
Ben, j'ai déjà parlé un peu de ça avec la question de les votes soumis à la discipline, mais selon moi, c'est une situation très similaire. Si vous rappelez des années 2006-2008, avec les différents gouvernements coalition, les gouvernements minoritaires
à Ottawa
et Layton à la niveau fédéral,
oui.
Je vois beaucoup de similarités là-bas.
Oui.
Selon moi, si c'est une situation minoritaire, 2 ans sera peut-être la duration la plus longue.
Oui.
Juste parce que on veut pas la perspective des partis, on veut pas une coalition qui dure trop longtemps parce que ça démontre il démontre qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les partis.
Oui, oui, oui.
Aussi, j'ai demeuré dans le Royaume-Uni pour mes études.
Oui.
Et là-bas, il y avait aussi une situation de coalition, mais c'était une coalition formelle, réglée, une coalition entre le parti Tory et le conservateur et la partie des
Liberal
Democrats.
Ouais.
Et c'était une situation un peu bizarre. Et c'était aussi une situation qui a vraiment fait de mal à la partie démocrate. Alors,
est-ce qu'ils ont perdu leur identité un peu?
Ben,
ou...
c'est drôle, notre député en Cambridge, où j'étais, et chaque député des Liberal Democrates avait une photo qui dit « Je ne vais pas hausser les tuitions des secondaires,
les frais de scolarité. »
Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, première chose qu'ils ont fait dans la coalition, c'était charger plus, hausser les frais scolaires.
Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
Beaucoup de députés ont perdu leur siège à cause de ça.
Ouais.
Alors, selon moi, si nous avons une situation minoritaire ou même une coalition, donc je pense que c'est un peu probable d'avoir ça. Ça va durer pas trop longtemps. Je pense qu'on ne va pas avoir une élection en octobre parce que c'est très tôt. Beaucoup de personnes ne veulent pas ça. La public veut de coopération, veut des politiciens fait des choses.
Ouais.
Mais je ne pense pas qu'ils vont avoir de coopération pour aussi longtemps juste parce que même s'il y a des valeurs en similarité, des valeurs en commune, il y a encore les valeurs qui n'est pas en commun. Et de cette façon, les partis peuvent seulement coopérer jusqu'à ce qu'un point certain. Et après ça, ils ont besoin d'avoir un autre mandat de la peuple. Alors, peut-être un an, 2 ans au maximum.
D'accord.
Mais ça vraiment dépend des gens. Et aussi, ça dépend des choses un peu bizarres. Quand nous avons une majorité d'un siège ou aucune siège dans la coalition, chaque vote est important.
Mm-hmm.
Alors peut-être il y a un député qui est attrapé après des inondations ou quelqu'un qui est malade. Ça vraiment change la dynamique de la chambre. Alors ça rend les choses un peu plus intéressantes.
Et c'est bon pour les citoyens, d'après toi?
Ben c'est bon pour la politique. Et de cette façon, c'est bon pour les citoyens. Juste parce que quand nous avons un gouvernement majoritaire, il peut vraiment faire ce qu'il veut, comme on voit avec les libéraux, ce qu'il ne veut pas faire. Ouais. De cette façon. Dans une situation minoritaire ou coalition, il y a plus de négociations. Et selon moi, des fois, c'est pas mal parce qu'il y a plus de discours, plus de négociations. Et c'est vraiment un bon défi pour les politiciens parce que pour le public, ils peuvent voir les politiciens qui sont très bons à faire les négociations. Parce que des fois, les personnes qui sont élues, c'est parce qu'ils sont bons à faire les élections, mais ça ne dit pas beaucoup sur leur habilité de faire des négociations.
Oui, OK. Donc, quel est ton souhait pour les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce que tu souhaites pour la Colombie-Britannique?
Ça, c'est difficile. Selon moi, je souhaite une situation dont nous pouvons avoir la change. Nous avons eu déjà 16 ans des libéraux au pouvoir. Alors, moi, je souhaite avoir juste une situation qui se règle dont nous pouvons avoir du changement, spécifiquement le changement électoral. Comment ça, nous pouvons avertir ça dans le futur. Le changement électoral, selon moi, c'est des situations structurelles qui changent vraiment le discours. Alors, si nous pouvons avoir une situation minoritaire ou majoritaire, une situation de coalition informelle, quoi qu'il soit, ça, pour des partis qui veulent vraiment le changement électoral, ça, selon moi, ça serait un bon défi, un bon... situation.
Thiel, grand merci pour tes impressions, observations et pour ton analyse post-électorale. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler prochainement parce que la situation continue d'évoluer. Ouais. Il y aura de nouveaux développements, de nouveaux rebondissements, peut-être des surprises. Je rappelle à nos auditeurs que Till Phelps Bondaroff est docteur en politique internationale de l'Université Cambridge. C'est un spécialiste aussi de la politique ici en Colombie-Britannique. Il était consultant pour le Parti néo-démocrate. On va réinviter très bientôt Till. Et Till, ben, à très bientôt sur les ondes de CILS FM 107,9.
Merci beaucoup.
Voilà, encore merci à Till Phelps Bondaroff pour cet entretien sur la politique provinciale de Colombie-Britannique. C'est Alexis Gagnon au micro qui vous remercie pour votre écoute en cette édition des 23 et 24 mai. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.
Vous écoutez CILS FM, l'unique radio communautaire francophone de Colombie-Britannique.
Bonjour, ici Pascal Gélina. Vous écoutez la seule radio communautaire francophone à l'ouest des Rocheuses, 107.9 CILS FM.
Allô la planète, avec Éric Lange.
Et bonjour tout le monde, émission numéro 147. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ouais, ça fait... Si, c'est ça, 147. Ça fait quand même du monde qui est passé depuis cet automne, dis donc. Et pour nous joindre et discuter avec nous du monde tel qu'il est autour de nous, tel que nous le découvrons, tel que nous avons envie d'aller le voir ou le raconter, vous nous laissez un message via la page Facebook d'Allô la Planète ou sur le blog d'Allô la Planète, un petit lien, un numéro de téléphone, un mot. Ne vous inquiétez pas, nous, on vous recontacte et vous arrivez dans l'émission. Alors, on va tenter, on a beaucoup de Skype en ce moment, donc on ne sait pas trop ce qui va tomber. Mais sur les petits papiers que j'ai devant moi, il y a notre amie Virginie à Bangkok qu'on n'a pas réussi à voir hier, on va tenter de là. Kaina et Jérôme qui s'étaient partis pour Bali à pied avec leur chien, ils ont eu un problème à Istanbul, il a fallu ramener le chien en France, mais eux maintenant ils sont en Thaïlande. Noémie aussi qu'on a eu dans le Transsibérien, elle serait arrivée en Thaïlande aussi. Bon bref, tous ces gens, on va essayer de les avoir. Et on démarre avec notre ami Vonik qui est allé faire de la moto, mais oui.
Allô la planète avec Chapka.
Salut Vonik, bienvenue.
Salut Eric, ça va?
Ouais, c'est comment là autour de toi?
Là je suis dans un restaurant.
Bah c'est bien, c'est comment? T'as le droit, faut manger.
Il y a plein de photos de motos et il y a un billard.
Mais oui, parce que tu m'as dit je suis arrivé dans la Mecque des motards. C'est quoi, c'est où la Mecque des motards?
Non mais en fait, après pas tous les motards, mais là je suis à Tavoulia. Donc c'est à côté de Saint-Marin en Italie.
Ouais.
Et c'est le village de Valentino Rossi qui a été plein de fois champion du monde. Donc c'est plein de numéros, son numéro c'est 46, donc c'est maquillé partout du 46 et du jaune.
Je connais rien, pour moi Rossi c'est un chanteur. C'est quoi, c'est un motard?